Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les personnes âgées ont été à la fois les premières victimes du Covid-19 et les dernières personnes confinées en France. Ce sont essentiellement à 80% des personnes de 65 ans et plus qui ont succombé aux complications du coronavirus. Et le nombre de décès liés au Covid dans les EHPAD, ces établissements qui hébergent les personnes âgées dépendantes, et au sein des établissements médico-sociaux, les EMS, eh bien, il s'est élevé à plus de 10 000 morts. Le 16 juin s'est amorcé le déconfinement progressif des maisons de retraite. Et c'est précisément dans l'un de ces EHPAD de la ville alsacienne de Colmar que nous vous proposons de nous rendre aujourd'hui, cette région du Grand Est particulièrement affectée par la pandémie. Sur place, pendant des semaines, les soignants ont fait face à une épidémie difficilement maîtrisable. Ils ont été confrontés à la mort brutale, non anticipée de nombreux résidents. Les familles, elles, en maintenant les gestes barrières, ont pu retrouver leurs proches après une inquiétante et frustrante période de séparation. Les résidents, quant à eux, racontent l'enfermement, l'isolement et également parfois la peur. EHPAD et Covid-19, quel tribut pour la vieillesse. C'est un reportage de Charlie Dupio au sein de l'EHPAD Les Cèdres du Centre départemental de repos et de soins de Colmar. Charlie Dupio, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre reportage commence à l'heure des visites au sein de cet EHPAD.
Oui, il est précisément 16h et nous accompagnons Madame Gillot qui rend visite à sa maman. En temps normal, elle vient chaque semaine alors qu'elle vit à une quarantaine de kilomètres d'ici.
Oui, la visite.
La visite.
Oui, oui. Pas de problème.
D'accord, ok.
Oui, vous le faites quand? Jusqu'à 5h.
Merci.
Vous pouvez marcher juste pour qu'il y ait une traçabilité, hein?
Oui, oui, je comprends.
Alors, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez voir un proche ici?
Je vais voir ma mère, qui a 93 ans, voilà, et qui m'attend. Elle peut sortir maintenant, donc on en profite. On prend l'ascenseur, et je pense que le gel hydroalcoolique doit être plus haut, au niveau du premier étage.
Vous avez un masque?
Oui.
C'est obligatoire. C'est écrit là, sur un petit panneau.
Alors elle m'attend. Elle m'attend. Et puis, moi c'est la première fois depuis le début du confinement que je viens dans sa chambre.
Ah, jusque-là vous n'étiez pas encore venue dans sa chambre?
Non, non, non.
Par contre vous aviez pu la voir dans la salle du bas, une grande salle.
Oui, oui, depuis le 20 avril. Oui, oui.
Mais à partir du moment où j'ai pu venir la voir, oui, je lui ai apporté des livres, elle lit beaucoup.
Nous avons essayé de nous occuper d'elle le mieux possible. Alors elle a 3 enfants, en lui téléphonant. Enfin, vraiment tous les jours, très très régulièrement.
Elle a un téléphone avec elle?
Elle a un téléphone, oui. Elle a pu avoir de nombreux coups de fil et pour essayer de la maintenir. Et je sentais quand même, vers la fin, que sa voix tremblait d'épuisement après avoir passé plus de 2 mois en confinement dans sa chambre. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir, elle a vraiment besoin. Elle a besoin de la nature. Elle ne savait, ce qu'elle me rapportait beaucoup, c'était la débâcle en 40. Elle avait 13 ans. Quand avec son père a emmené sa famille dans le sud de la France, en zone libre, elle me disait, ça me rappelle ce temps-là. Mais on n'a pas été obligé de rester dans notre chambre aussi longtemps.
Elle m'a fait beaucoup donc d'analogies avec la guerre, hein, je vous le disais aussi tout à l'heure. D'ailleurs, la première fois que je suis venue la voir, que j'ai pu avoir la rencontrer, hein, à partir du 20 avril, elle m'a dit que j'étais en zone libre. Ah oui, c'est vraiment les réflexes de ce qu'elle a vécu quand elle avait 13 ans. Toi, t'es en zone libre. Non, c'était très sérieux. Et en fin de compte, ça concernait sa réalité. Elle était en zone occupée.
Dans l'EHPAD, elle était en zone occupée et vous qui veniez du dehors, vous étiez en zone occupée.
Il fallait qu'elle soit confinée, qu'elle se... Oui, oui.
Qu'est-ce qui lui rappelait ce moment-là?
La peur. Je crois vraiment à la peur. Tous les médias parlaient du coronavirus, parlaient des décès, parlaient de... Elle a eu totalement conscience de cela, vraiment, elle a bien sa tête encore. Et puis, petit à petit, ben là maintenant, je n'ai plus besoin de prendre rendez-vous. C'est la première fois que je viens sans rendez-vous, donc depuis le 20 avril.
C'est depuis le 23 juin, ici, que vous avez le droit de venir sans rendez-vous.
Sans rendez-vous, complètement.
Qu'est-ce que ça vous fait ?
Oh, je suis contente et en même temps, je suis prudente. Parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous savons un peu ce que nous avons vécu ces derniers mois. On peut souffler un petit peu.
Hey.
Ça va ? Veux-tu qu'on aille se promener un peu dehors ? Voilà. Et puis je vais me dépêcher de marcher parce qu'on a une petite heure.
Promenade dans cette EHPAD de Colmar. Charlie, cette région du Grand Est a donc été effectivement très durement touchée par le Covid-19.
Oui, et cette EHPAD compte 128 résidents au sein d'une plus grande structure qui est donc ce centre départemental de repos et de soins qui accueille notamment des personnes handicapées à Colmar. Alors dans les hôpitaux du Grand Est, on recense à ce jour plus de 3500 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Et cette EHPAD des Cèdres n'a pas été épargnée. Le pic de la crise a duré près de 6 semaines. De début mars jusqu'à la mi-avril. Sur place, une unité Covid a même été créée, au deuxième étage du bâtiment, là où se sont déclarés de nombreux cas. Et dans cette unité, on sent une certaine envie de se poser pour regarder en arrière avec du recul les semaines et les mois passés. Alors j'ai rencontré la médecin gériatre, praticien hospitalier qui a géré cette unité Covid. C'est le docteur Laure Schmitt qui travaille dans l'établissement depuis une dizaine d'années. Elle raconte à quel point cette période a été pour elle forte et chargée d'un point de vue émotionnel.
Alors au début, c'est vrai qu'on en avait entendu parler déjà depuis la fin de l'année dernière en Chine, mais on avait quand même assez minimisé en fait le risque potentiel. Et c'est vrai que quand tout d'un coup ça s'est étendu et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un virus et une infection qui avait une réelle dangerosité, notamment pour les populations vulnérables que nous accueillons, c'est vrai que là ça a été un petit peu la panique. Il a fallu s'organiser, il a fallu adopter des bons gestes, une stratégie en fait d'emblée, et tout au long de la crise, en fait, on a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Après, c'est vrai que c'était là, par rapport à la pathogénicité du virus. Contrairement aux épidémies de grippe, où on sait un petit peu, on va dire, on a une modélisation, on va dire, de l'évolution d'une épidémie de grippe, là, c'était ça qui était assez angoissant, parce qu'en fait, on ne savait pas du tout quelle allait être l'évolution. Est-ce que la totalité du bâtiment, donc les 128 résidents, allaient être atteints ? Est-ce qu'on allait réussir à circonscrire l'épidémie ? Un environnement familial aussi qui était du coup peu présent physiquement parce que les proches avaient aussi très peur, donc il y avait en plus une culpabilité des proches, donc il fallait qu'on accompagne les proches au téléphone. Les proches savaient effectivement qu'on avait l'imminence d'un décès et ils ne souhaitaient pas, ils ne voulaient pas non plus venir effectivement assurer cet accompagnement.
Parce qu'ils avaient peur d'être eux-mêmes contaminés ?
Oui, c'est ça. Il y avait vraiment la crainte, en fait. Alors, la population qu'on accueille, elle a quand même au moins 90 ans. La moyenne d'âge, c'est 90. Donc, on a quand même des personnes très âgées. Donc, les enfants de ses proches sont eux aussi, en fait, dans la zone des populations fragiles, donc des 60, 65 ans et plus. Et clairement, effectivement, les enfants nous disaient qu'ils ne voulaient pas prendre le risque, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs conjoints, soit dans leur environnement familial immédiat.
Quand sont apparus les premiers cas au sein de l'EHPAD des Cèdres ?
Alors ça a été tout début mars, hein, la date exacte, je crois que c'était le 5, le 6 mars, et ça a été très très rapide en fait. Le premier jour, on a déjà eu 5 ou 6 cas, et tous les jours, on avait 2, 3 cas. Donc l'épidémie, en fait, a vraiment flambé. Alors une unité a été très fortement touchée puisque la totalité des résidents ont été, on va dire, atteints. Alors c'était ça aussi, c'est une autre particularité, c'est qu'on a des résidents qui ont fait des formes gravissimes mais quasiment immédiates en l'espace de quelques jours, et on a d'autres résidents qui sont pourtant très fragiles, très vulnérables, qui ont été totalement asymptomatiques et dont le diagnostic a été fait sur une sérologie.
Et vous parlez de formes gravissimes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait pour ces patients-là ?
C'est des personnes qui décompensent sur le plan respiratoire en l'espace de quelques heures et pour lesquelles, effectivement, c'est de la réanimation qui est nécessaire. Mais c'est vrai que compte tenu de leur âge et de leur comorbidité, ils ne sont pas éligibles à la réanimation. On n'a même pas essayé de les faire admettre en réanimation. De toute façon, à cette époque-là, les consignes étaient claires, c'est qu'ils n'admettaient pas des personnes âgées. Dans les EHPAD, on a eu même des protocoles, des sociétés savantes de soins palliatifs et de gériatrie pour mettre en route des procédures de sédation dans nos EHPAD.
De la sédation, qu'est-ce que c'est ?
C'est-à-dire qu'on provoque une sorte de coma artificiel pour que la personne n'ait pas conscience de sa gêne respiratoire, de sa difficulté respiratoire et qu'elle décède, on va dire, dans un état inconscient. Pour que justement, on n'envoie pas nos patients au niveau de la réanimation qui n'étaient pas en capacité de les prendre en charge.
Et ça, on a pu vous le reprocher parmi les familles ?
Non. Non, ça c'était très médiatisé, donc c'était très clair pour les familles. Hein. Donc ça c'est vrai que là-dessus, les familles savaient que les personnes âgées, de toute façon, n'auraient pas de soins de réanimation.
Combien de résidents vous avez perdu pendant cette période-là ?
Alors au niveau du bâtiment, donc il y avait 120 résidents là au début de l'épidémie, il y en a 50 qui ont été atteints, donc c'est des diagnostics confirmés. Sur les 50, il y en a 14 qui en sont décédés. En sachant que sur ces 14, il y en a 12 qui sont décédés uniquement dans une unité de 32.
Dans cette fameuse unité où ça a commencé.
Ça a commencé. Après, effectivement, une fois que l'épidémie a commencé dans cette unité, on a eu d'autres cas dans les autres unités. La stratégie, c'était effectivement très rapidement d'extraire les patients qui étaient malades, diagnostiqués positifs des autres unités pour éviter une extension de l'épidémie et donc effectivement de les accueillir dans cette unité Covid, en fait, hein, dans au niveau du deuxième étage. Et c'est vrai qu'on avait des fois l'impression que les gens décédaient un petit peu tout seuls parce qu'on n'avait pas les moyens, ni de temps, ni humain, pour pouvoir les accompagner le mieux possible.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à cette période-là ?
Moi, j'ai été confrontée à de multiples reprises à des familles qui ne comprenaient pas pourquoi on maintenait le confinement, qui étaient persuadées, on va dire, que l'attitude de l'établissement, qui était l'attitude recommandée par les tutelles, allait avoir des conséquences péjoratives sur l'état de santé des résidents. Et on a eu vraiment des menaces, voire des injures. On a été traité de tortionnaires, qu'on serait responsable de la mort de leurs proches parce qu'ils allaient mourir de solitude plutôt que du coronavirus. Enfin, des propos comme ça, c'était dur. C'est vrai que cet aspect-là, sur le plan émotionnel, c'était compliqué. Notre rôle à nous, c'est de protéger nos personnes âgées. C'était comme ça, non-stop. Je garderai pas un bon souvenir, on va dire. Donc pour moi c'est passé, c'était effectivement tout à fait atypique. Je veux dire, en gériatrie, la fin de vie, on peut la préparer. Souvent, effectivement, on voit que l'état de santé de la personne diminue, baisse, s'aggrave. On peut, si les gens ont encore des capacités cognitives, on peut converser, on peut échanger, on peut préparer, on va dire, les accompagner finalement un petit peu dans ce bilan de vie, en fait. Là, c'était des personnes qui ne voulaient pas mourir. On avait des personnes, certaines, qui étaient plutôt assez valides, on va dire, dans un état de santé qui était tout à fait correct et qui, pouf, basculaient. Sans qu'on ait pu effectivement avoir un peu ce cheminement avec eux, quoi. La crainte, elle est toujours là, notamment effectivement, on sait que le coronavirus est toujours là. Là, la grosse difficulté actuelle, c'est justement l'accompagnement des familles, puisque les familles sont très très contentes de pouvoir revoir leurs proches, mais il faut effectivement qu'elles aient bien conscience, on va dire, du maintien des gestes barrières, et ça, c'est très 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 compliqué à leur faire prendre conscience de ce risque-là.
On le comprend bien, cette prise de conscience d'un danger qui reste présent d'ailleurs est difficile pour ces familles qui ont attendu longtemps avant de revoir leurs proches.
Oui, à compter du 9 mars, ici comme partout en France, les EHPAD ont fermé leurs portes. Les visites des proches ont été interdites. On était alors 6 jours avant le confinement national et il s'agissait déjà de freiner la propagation du virus auprès d'une population vulnérable avec un risque élevé de mortalité. Et c'est seulement 6 semaines plus tard, le 21 avril, que cet EHPAD à Colmar a timidement rouvert ses portes aux proches des résidents, mais dans des conditions très particulières, puisqu'il fallait prendre rendez-vous pour un créneau de 20 à 30 minutes. Se retrouver dans une salle en étant séparé par une grande table pour maintenir une distanciation physique avec 2 mètres de distance entre le résident et la famille, avec aussi des visières imposées pour chacun et avec la présence d'un membre du personnel pour vérifier le respect des gestes barrières. Dans certains EHPAD, on pouvait voir son parent derrière une vitre en plexiglas. 2 mois donc de visites très contrôlées. Et à partir du 22 juin, les visites dans les EHPAD ont à nouveau été autorisées sans rendez-vous. On pouvait à nouveau voir les résidents dans leur chambre. Et même les enfants peuvent désormais aussi se rendre au chevet de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, ce qui n'était pas possible jusque-là.
Alors Charlie, on l'imagine, ce confinement total a été assez mal vécu du côté des familles.
Oui, j'ai interrogé plusieurs familles, notamment ce fils qui avait l'habitude de voir sa mère au moins 3 fois par semaine. Il lui avait même organisé une fête avec toute la famille, elle et ses 4 enfants, pour ses 90 ans. Une fête prévue en mars, le jour où les EHPAD se sont confinés. L'anniversaire a donc dû être annulé la veille. Pendant le confinement, ce fils a eu peur que sa mère perde en autonomie. Elle, qui lui disait par téléphone se sentir en prison. Et pour lui, les protocoles mis en place par cette EHPAD, comme ailleurs d'ailleurs, étaient trop stricts. J'ai aussi parlé à 2 sœurs qui, elles, s'inquiétaient pour leur mère, atteinte d'Alzheimer, qui a beaucoup maigri pendant le confinement. Elles ont craint que leur mère ne développe un syndrome de glissement. En fait, c'est la détérioration rapide de l'état général d'une personne âgée, soudain désorientée, qui ne s'alimente plus et qui renonce à la vie. Alors, selon la médecin de l'équipe soignante de l'EHPAD, aucun syndrome de ce type n'a été à déplorer pendant cette période de confinement. Elle reconnaît par contre que les résidents, en prenant leur repas seuls dans leur chambre, ont pu avoir moins envie de s'alimenter. Alors, bien sûr, cet isolement a aussi été mal vécu par les résidents, cloîtrés dans leur chambre, quitte à faire les 100 pas, comme cette femme en jean et t-shirt vert foncé que j'ai rencontrée dans sa chambre, au 2e étage de l'EHPAD, dans ce qui a donc été l'unité Covid, aujourd'hui revenue à la normale. Cette résidente nous accueille avec le sourire et un regard très vif.
Moi, je vais me mettre là.
Vous êtes sûr que je mets sur mon...
Ah oui, non, mais mon fauteuil est hyper confortable.
Alors, vous êtes Madame de Dimeo.
Madame Dimeo, oui. Mon prénom, c'est Micheline. Et vous voulez savoir ma date de naissance, peut-être?
Peut-être.
Peut-être. Donc, 23 juillet 1932, donc dans quelques jours, je vais avoir 88 ans. Voilà.
Vous avez l'air en forme?
La forme, ça va. C'est... Moi, j'ai surtout une déformation de la colonne vertébrale qui me fait mal, mais sinon... Je me déplace, j'ai pas besoin d'aide particulière, je peux aller à table, je fais pratiquement toute ma toilette toute seule. Bon, je fais pas partie des gens qui sont vraiment handicapés, c'est ça que je veux dire, quoi.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Mais je suis arrivée il y a 1 an.
Alors, pendant cette année-là, il y a eu beaucoup de choses, et notamment il y a eu ce confinement.
Qui a été quelque peu contraignant. Moi qui aime bien, j'aime beaucoup marcher. J'ai besoin de voir de l'herbe, des arbres, des voilà. Et moi, de plus pouvoir sortir, ça a été vraiment très très pénible. Le fait d'être confiné dans les 4 murs, ça c'était très très dur. Bah, on a même été presque 2 mois où on n'avait même pas le droit de sortir dans le couloir puisqu'il y avait plein de cas de coronavirus.
À cet étage-là, c'était l'unité Covid.
Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je l'ai eu dès le début, tout de suite vers le 10 mars. J'ai eu 3 jours de fièvre, c'est tout. Et après, bon, j'étais très fatiguée, après ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis, j'ai perdu le goût et l'odorat.
Vous ne l'avez pas retrouvé?
Et je n'ai pas encore retrouvé. Un tout petit peu le goût, mais alors très très peu. Mais alors, l'odorat, pas du tout. Mais bon, je ne peux pas dire que j'ai été malade, couchée pendant des jours et des jours. Non, 3 jours, un peu plus de 39, pas plus que ça. Tout de suite, on m'a fait des tests, on a vu que j'avais bien eu... Le virus, et puis...
Vous l'avez eu dès le début, et puis ensuite, vous avez dû rester comme les autres, confinée dans votre chambre.
Confinée, là. Depuis le 15 mars jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était confinés dans nos chambres. Hein. Je m'astreignais à marcher. Là, je faisais aussi... J'allais jusque dans ma salle de bain. Je ressortais, je venais là, je revenais. Pendant plus d'une heure, je faisais ça. Oui, pour rester... pas manquer l'oser, quoi. Je m'obligeais à ça. Dès qu'on m'empêche d'aller dehors, voir les arbres de près, la nature de près, moi, ça me manque aussitôt. Moi, j'ai une grande randonneuse. Hein. Bon, moi, j'ai de la chance avec mon portable. Je voyais mes enfants, mes petits-enfants. Je pouvais discuter avec.
Vous avez un téléphone portable, un smartphone?
Oui, oui, oui. J'en ai toujours 2-3 qui me téléphonent dans la journée en visio. Hein. On se parle...
Et vous les voyez en visio, comme on dit, en vidéo?
Oui, oui. Non, non, pour ça, moi je n'ai pas été privée à ce niveau. Mais le contact manque quand même, quoi. Moi, ça me manquait. Le contact me manquait.
Vous avez combien d'enfants?
5. 3 filles, 2 garçons. 10 petits-enfants. Alors, cet après-midi, normalement, ma fille aînée devrait passer. Elle y a eu un moment, même, on l'empêchait de rentrer, de venir jusque-là. Elle venait sous ma fenêtre me faire coucou. Là, voilà. Pour me dire bonjour. Pour le moment, j'ai pas serrer ma fille, elle est venue, ben, on se dit bonjour comme ça en fait, voilà. Mais bon, je pense que ça va revenir quand même, d'autant que mes enfants plus ou moins ont tous eu le Covid, donc on pourrait franchement se faire la bise et c'est défendu. Bon.
Vous écoutez alors même que vous êtes dans l'intimité de la chambre?
On respecte les règles d'hygiène pour le moment. Quand je vois les reportages à la télé, les gens qui sont vraiment inconscients, qui ne savent pas les mains, qui restent les uns contre les autres et tout, on aura sans doute de mauvaises surprises à l'automne, à mon avis. Hein.
Et comment vous envisagez cette perspective peut-être d'un autre confinement, encore une fois, en chambre?
On résistera comme la première fois, ma foi.
Résidente, résiliente et aussi résistante, hein, c'est ainsi qu'on pourrait décrire Micheline du haut de ses presque 88 ans. Et elle n'est pas la seule. Le personnel soignant dans cette EHPAD comme ailleurs a aussi été en première ligne, Charlie.
Et aujourd'hui, c'est soignante. Alors, je n'ai rencontré que des femmes. Elles se disent fatiguées, épuisées et elles rêvent de prendre quelques vacances cet été pour surmonter hein, tout ce à quoi elles ont dû faire face pendant cette période. Maureen est infirmière. Elle a 33 ans. Et elle a été mobilisée dans l'unité de l'EHPAD dédiée au Covid. Quand on commence à discuter, elle me prévient d'emblée, il se peut que je pleure. Ne vous étonnez pas si les larmes viennent. Mais avant cela, elle doit d'abord finir de poser une perfusion sur une patiente.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Je viens vous mettre la perfusion. Hein? Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien.
Je m'appelle Maureen, je suis infirmière au CDRS depuis 2015. Au début, on ne savait pas du tout encore si le virus était rentré dans l'établissement. Du coup, on faisait en général des prélèvements grippe. Et si le prélèvement grippe était négatif, on allait plus vers un Covid, du coup. Du coup, j'ai dû travailler dans mon bâtiment une nuit. Et c'était une nuit où encore on faisait beaucoup d'aérosols, d'aspiration. Les gens avaient beaucoup de difficultés à respirer, du coup on faisait des masques avec des produits nébulisants en fait pour les aider à dégager les bronches. Et en fait, le fait de faire ça et le fait de faire des aspirations pour les gens encombrés, ça diffuse le virus dans la pièce en fait.
Une aspiration, qu'est-ce que c'est?
Alors une aspiration, c'est quand on met une sonde au niveau de la bouche du patient pour l'aider à dégager ses voies respiratoires. Et comme on n'avait qu'un masque, on n'avait pas de lunettes, enfin ça pouvait voler partout dans la pièce. Voilà, et en fait, comme c'était le virus du Covid, et du coup je l'ai peut-être attrapé à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir des frissons, je me suis dit c'est la fatigue, et je me suis dit je vais quand même prendre ma température, et j'ai eu 39 de fièvre quand j'étais au travail. On n'était pas encore confinés. Voilà, du coup je me suis isolée pendant 14 jours dans une chambre d'amis.
Chez vous?
À la maison, oui. En abandonnant mes collègues. Mes collègues, elles n'osaient pas trop me dire qu'est-ce qui se passait parce qu'elles voulaient me protéger aussi, je pense, vu que j'étais très mal en point.
Et ensuite, vous êtes revenue au travail?
En fait, je suis revenue au travail, donc c'était l'inconnu parce que je voyais beaucoup la télé. Et quand je suis arrivée, c'était assez compliqué au niveau émotion. Voilà, on avait perdu des résidents du Covid, la moitié pratiquement. C'était très, très dur, hein.
Et c'était des résidents que vous connaissiez?
Bien sûr. En fait, on a un lieu de vie, donc moi, ça fait 5 ans que je travaille là, donc ça fait 5 ans pratiquement qu'on les connaît, donc on s'attache, on connaît leur famille, on connaît leur vie. Il y avait des résidents déments, mais il y avait des résidents qui avaient toute leur tête, donc c'est vrai que... Enfin, quand je suis arrivée dans ce service, c'était vraiment un monde à part, quoi. C'était... J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Et c'est vrai que quand on passe devant les chambres, ben, c'est vide, hein. Là, il y en a eu beaucoup de décès, donc c'est vrai que...
Et alors, comment vous avez réorganisé le service ici, cette unité, qui est devenue l'unité Covid?
On avait tout le matériel au centre du service, avec les surblouses, les charlottes, les masques, les tabliers, les lunettes. Et on s'équipait dès qu'on arrivait le matin, on s'équipe. Alors c'est vrai que d'habitude, sur ces tables, il y a des fleurs, des magazines, des jeux... Les gens, on allait dans les chambres, les résidents ne nous reconnaissaient même plus avec notre tenue.
Et vous, vous étiez dédiée à ce service-là?
Voilà, ça évitait de faire voyager le virus. Voilà, donc on savait qu'on ne contaminait pas nos autres services, nos autres patients. Il fallait gérer les décès, le protocole des décès qui était très dur. Parce que d'habitude, on fait une toilette mortuaire, on rend les personnes belles, on leur met des beaux habits... Et là, ben non, là, on ne fait rien du tout. On met la personne dans une housse et on ferme la housse. Voilà, on voit après le brancard passer avec la personne dedans. Voilà, les familles n'osaient pas trop venir voir leurs proches parce qu'ils avaient peur d'attraper eux aussi la maladie, mais ils avaient le droit de venir. Notre médecin l'autorisait. Mais comme c'est vrai qu'on a des résidents qui ont 80, 90 ans, leurs enfants, bah, ils ont déjà 60, 70 ans, ou leur épouse, ou donc les gens avaient vraiment peur de venir au service voir une dernière fois leurs proches. Après, moi, je sais que quand j'avais leur famille au téléphone, je leur demandais s'il fallait dire un petit mot. Du coup, je leur disais le petit mot de la famille, ou on leur mettait le téléphone.
Donc, ils parlaient directement à la famille ?
Ils ne parlaient pas. Il y en avait qui ne parlaient plus. Parce qu'on leur mettait un médicament justement pour les soulager, pour qu'ils ne se rendent pas compte de la situation, pour apaiser la douleur. Même s'ils étaient inconscients, on passait le téléphone et la famille leur disait quelques mots. Parce qu'on se dit peut-être qu'ils entendent quand même. C'est vrai que c'est un moment qui m'a touchée, c'est quand une dame, elle attendait un appel. À ce moment-là, la fille m'a appelé moi, donc du coup, j'étais un peu l'interlocutrice encore entre les deux, parce qu'on ne transmettait pas toujours le téléphone à cause justement du virus. Et c'est vrai que c'était une dame qui venait voir sa maman tous les jours. J'étais la dernière personne à avoir fait le lien de leur dernière communication, on va dire, d'encouragement de la fille à sa maman, et la maman qui essaye de dire à sa fille que ça va.
Elle avait quel âge ?
100 ans. Et elle est décédée le soir même, quoi.
Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus difficile encore à accepter, à réaliser ?
On n'a pas pu transférer nos patients, certains de nos patients, dans un service adapté de réanimation, ou voilà. Après, à un moment donné, on est arrivé, je pense, à un moment où il fallait faire le choix entre des jeunes et des moins jeunes. C'est vraiment l'impuissance. De la colère, de pas avoir de remède, on peut rien faire, quoi. Enfin, c'est l'inconnu, ce virus. Qu'on est triste, on pleurait par moments. Donc c'est vrai que la semaine prochaine, on voit une psychologue, la psychologue de l'établissement. On a une réunion avec elle, pour un peu parler de ce qui s'est passé. Nos ressentis. Après, peut-être que ça va faire notre travail de deuil, peut-être, ou je sais pas qu'est-ce qu'on attend spécialement. Mais ouais, vider notre sac. Hein. Je suis dans le milieu depuis que j'ai 17 ans. Hein. J'aurais jamais. On se le dit avec nos collègues, on n'aurait jamais pensé vivre un jour une catastrophe. Hein. Pareil.
Rendez-vous imminent avec une psychologue, et cette infirmière n'est pas la seule, hein, Charlie, à vous parler de cette perspective.
Oui, on sent que c'est le moment de se remettre de ce raz-de-marée très intense pour l'ensemble de cette équipe qui a été au front, hein, après de longues journées sans pause, de nombreuses heures supplémentaires. En tout, 55 réunions de crise ont été organisées pour les membres de la direction de la structure, une tous les jours, tous les 2-3 jours. On pouvait alors entendre deux phrases dans l'établissement: ça flambe et ça tombe. Ça flambe en parlant des cas de Covid parmi les résidents, les patients, et ça tombe pour évoquer les arrêts maladie soudains du personnel, eux aussi contaminés, comme Maureen d'ailleurs. Une petite centaine de soignants ont été malades, une centaine sur 480 qui travaillent dans l'ensemble du centre départemental de repos et de soins. Donc on imagine la pénurie d'effectifs qu'il a fallu gérer. Il a fallu aussi gérer le manque de matériel, pourtant indispensable à la gestion de cette crise: masques, gel hydroalcoolique, tests, etc. Nicolas Dubuis est le directeur de ce centre départemental de repos et de soins de Colmar. C'est lui qui a coordonné la gestion de la crise. Pour nous, il déroule le fil des événements depuis le début.
Si on veut refaire une chronologie, donc ça débute en fait avec le rassemblement évangélique à Bourdwiller, près de Mulhouse, donc c'était le 18 février. Il y a 2000 personnes qui se sont rassemblées à Bourdwiller. Et en fait, il y avait des cas Covid parmi eux, et le Covid se transmettant notamment par le contact, etc., etc. Ils se sont pris dans les bras, ils se sont touchés, ils ont passé plusieurs jours ensemble dans un endroit confiné. Donc ça a été un espèce d'accélérateur, en fait, de l'épidémie en Alsace. Ouais.
Quand ils sont revenus, chacun dans leur ville.
Et après, on sait qu'ils ont essaimé en Alsace, mais voilà.
Et qui étaient à combien de temps d'ici, ou de kilomètres ?
C'est une demi-heure, en voiture. Le 5 mars, on a notre premier patient, donc le patient zéro, dans une autre unité au Platane. Donc là, à ce moment-là, on a fermé le bâtiment. Le Platane, c'est notre bâtiment sanitaire. Au niveau de la prise de conscience collective, c'est la visioconférence qu'on a le vendredi 6 mars avec l'ARS.
L'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé.
Voilà, là, les collègues des hôpitaux hein, du Mulhouse et Colmar nous disent qu'ils sont vraiment en grosse difficulté. Voilà. Et là, on voit effectivement que les hôpitaux de Mulhouse et de Colmar commencent à être débordés, quoi. Donc nous, on se met en position d'attendre la vague. Voilà, la vague qui est arrivée nous informe qu'il y a déjà du tri pour accéder à l'AREA hein, au niveau des patients. Comment dire, la vague, elle est arrivée dans le sens où on avait des soignants qui étaient touchés. On a été impacté en termes d'organisation parce que les écoles ont fermé. Et puis on avait des résidents et des patients qui étaient touchés, quoi. Ouais. Et à partir du lundi 9 mars, en fait, voilà, on va passer 3 semaines seuls. C'est-à-dire que on va se débrouiller nous-mêmes pour trouver tout ce qui touche à la protection des agents. Donc, on a beaucoup parlé des masques. Hein, donc, nous, on avait un stock très faible de masques, très peu de solutions hydroalcooliques.
C'est-à-dire, concrètement, vous aviez des masques pour quelle durée ?
On avait un stock pour une semaine, voilà. Et à partir de là, toute l'équipe s'y est mise. On a harcelé, vraiment, les fournisseurs.
Combien de temps ça vous a pris de trouver suffisamment de masques et de gel pour la suite de la crise? Et pendant combien de temps vous étiez dans l'incertitude par rapport à ça?
Pendant tout le mois de mars, en fait. Et puis vraiment à harceler tout le monde, quoi. On a trouvé, voilà, on a trouvé rapidement. Pendant ces 3 semaines, le virus, il se développe et il va toucher toutes les unités, donc notamment les CED où vous êtes allé.
Dans l'EHPAD.
Dans l'EHPAD, voilà, tout à fait. Et on aura une seule unité, en fait, qui sera indemne sur tous nos bâtiments au niveau du CDRS pendant cette période-là. Un seul bâtiment sur 6 et des unités Covid presque dans tous ces bâtiments. Le 9 mars, au vu de la crise, on ferme les portes complètement.
À toutes les familles.
À toutes les familles. Pour les rouvrir le 23 juin. Donc on imagine la longueur pour les familles.
Comment vous avez géré aussi peut-être les craintes des soignants d'être contaminés, ces peurs-là qui existaient?
Le vendredi 6 mars, on a eu un premier droit de retrait, qui était le seul de toute la crise, parce qu'il y avait des craintes, parce qu'effectivement, on entendait beaucoup de choses. Encore une fois, ce droit de retrait-là, à partir du moment où on les a rencontrés, on leur a expliqué qu'on ne les ferait pas travailler dans n'importe quelle condition, qu'on s'est engagé sur le fait qu'ils auraient du matériel de protection, ça s'est levé très vite, parce qu'ils ont une âme de soignant. La question ne s'est plus posée pendant ces 51 jours de crise. Ouais. On a travaillé sur des volumes horaires de 10 heures, 15 heures, enfin... par jour, pendant 51 jours, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, mais comme tous les collègues des hôpitaux et des EHPAD de l'Alsace, des régions qui ont été touchées, quoi, voilà. Et puis, on s'est tous mis en ordre de bataille, voilà, de manière très claire.
Quelles ont été les préconisations de l'ARS, de l'Agence Régionale de Santé, sur la gestion de la crise? Comment vous avez été accompagné ou pas sur ces questions-là?
Alors dans les premiers temps, je pense qu'on a pris la vague chacun à notre niveau, hein, de manière très claire. Je pense que l'ARS a pris la vague. À la fin du mois de mars, ils se sont réorganisés pour nous accompagner. Voilà, après ils nous ont appuyé dans la gestion de cette crise, mais peut-être de manière pas assez concrète au niveau des masques tout de suite. Voilà, les masques après ils en ont trouvé, mais plutôt au mois d'avril. Au mois de mars, on a passé 3 semaines tout seul. Ouais. Après, la difficulté, c'est notamment après l'intervention du Premier ministre le 19 avril, il y avait quand même une distorsion entre les annonces politiques grand public qui ont été faites par le Premier ministre, par le ministre de la Santé, et puis par le Président de la République, et les instructions ARS que nous, on avait, en fait. Il y avait des annonces peut-être simplifiées.
Par exemple ?
Quand le message passe sur un assouplissement des visites, par exemple le 1er juin, nous on a les familles qui téléphonent, on a des familles qui se présentent, et en fait il n'y a pas vraiment d'assouplissement des visites, si ce n'est que les mineurs peuvent revenir. Vous voyez, donc voilà, c'est quelque chose qui a été très progressif, qui devait être très progressif, mais les différentes annonces au niveau national ne nous ont pas forcément aidés, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'on nous demandait de faire au niveau local par les ARS. Il faut être clair aussi, nous on l'attendait, quoi. Après, aller expliquer à une famille que le président de la République a expliqué que les EHPAD rouvraient, pourquoi vous ne rouvrez pas? Bon, on m'a dit que j'étais plus important que le président de la République parce que bon, je voulais pas rouvrir mon EHPAD, quoi. Voilà. Donc encore une fois, on explique. On attendait encore une fois le feu vert pour le faire, puisqu'on est un établissement public de santé. On peut pas décider tout seul, quoi. Donc personnellement, j'étais ravi quand j'ai fait un mail à tous les agents du CDRS en disant que le CDRS était déconfiné le 23 juin. Oui, j'étais heureux, quoi. Voilà. Mais il était temps de déconfiner, quoi. Voilà, il était temps de déconfiner. comment dire ça, en toute modestie, en toute humilité, on apprendra de la crise. On espère clore cet épisode-là. On fera aussi une cérémonie du souvenir. Voilà, c'est important pour nous, pour les familles. On fera une cérémonie, on plantera un arbre. Et puis on laissera une trace, parce que ça a été quand même très marquant quand même ici. On laissera une trace de ce qui s'est passé. Ouais. On a quand même perdu 10% de nos résidents et patients. Quoi. C'est énorme. Et puis vis-à-vis des familles, et puis pour les soignants, peut-être les remercier une dernière fois. Quoi.
Et cet arbre du souvenir, eh bien, il devrait être planté début octobre dans le jardin du centre. Et ce directeur du CDRS de Colmar envisage maintenant l'option d'une seconde vague.
Oui, et il affirme on sera prêt. Selon lui, désormais, ses équipes savent créer des unités Covid et savent réagir rapidement. Le centre départemental de repos et de soins de Colmar dispose aujourd'hui de 80 000 masques, sachant qu'il en faut 560 par jour pour tout le personnel. L'ensemble du site compte 600 agents, hein, dont 480 sont des soignants pour 600 résidents au total. Chaque jour sur le site, on consomme 4 litres de solution hydroalcoolique, mais là aussi, les stocks sont pleins. Et depuis le 17 juin, les admissions de nouveaux résidents reprennent alors qu'elles étaient par principe figées auparavant pour éviter de nouvelles contaminations. Mais le confinement a eu d'autres impacts inattendus sur la vie de l'EHPAD, avec ces appels qu'on entend très souvent quand on se promène dans les couloirs, au milieu des chansons et des télévisions dont le son est souvent, il faut le dire, très fort. On entend donc des appels Skype, comme depuis cette chambre dont la porte est entrouverte.
Voilà, alors Chloé, racontez-nous le temps que vous avez à Metz.
Aujourd'hui, il fait super beau. Et chez vous, il fait comment, mamie? Il fait beau chez vous?
Est-ce qu'il fait beau, madame Cochesse-Berger? La météo, aujourd'hui?
Minable.
Oui. Ah, ça c'est clair au moins. On te fera voir des photos, mamie. Et quand on se verra, on pourra te montrer les photos.
Donc, votre petite fille a dit qu'elle viendrait au mois d'août et elle vous apportera les photos des vacances avec Boris à Metz. D'accord? Est-ce que vous voulez lui dire autre chose à votre petite fille?
Elle a tout dit.
Mais vous?
Elle parle assez.
Elle parle pour deux.
Je parle pour deux, hein, d'habitude, c'est ce qu'elle dit.
Oui.
Alors, bonjour madame. Là, vous voyez votre petite fille, c'est ça, sur l'écran? En Skype, en visio. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre petite fille? Là, elle est vraiment en plein écran. On la voit très bien. On voit son visage.
Ça fait plaisir, hein, de voir comme si c'était en direct.
On a fait ça à peu près, je dirais, tous les 15 jours. On faisait un Skype environ. Puis voilà, on peut montrer des choses. Par exemple, à mamie, on a fait ton anniversaire par Skype. Tu te souviens? C'était pendant le confinement. On a fêté ton anniversaire, tes 91 ans. J'avais fait un gâteau, on avait du crémant. De voir ma grand-mère, on va dire, dans sa chambre, dans son fauteuil, on va dire avec son petit environnement qu'on connaît, là, les photos, etc. Ça rassurait quand même. C'était quand même beaucoup plus rassurant parce qu'au téléphone, j'ai envie de dire, on peut dire que ça va, mais en fait, ça va pas trop.
Et du coup, là, vous continuez en fait. Vous n'avez pas encore pu revenir la voir.
Moi, je suis revenue une fois la voir. Après, comme j'habite pas à côté, de temps en temps, si c'est possible de faire encore des Skype, on va dire que ça s'est mis en place pendant le confinement, mais si ça peut continuer quand on peut pas faire des visites, on va dire régulières, ça aide.
Vous voulez dire au revoir à Chloé?
Oui.
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 À bientôt, merci. Bonne journée. Bisous, mamie.
Bisous, Chloé. À bientôt.
À bientôt.
Alors Marilyn Kleiber, vous êtes animatrice ici, et là vous avez permis d'organiser une petite conférence en visio sur Skype pour que madame puisse voir sa petite fille sur l'écran.
Certains résidents, on peut les laisser seuls avec la tablette. Je pose la tablette sur la table et je reviens une demi-heure après.
Et là vous restez avec madame?
Et là je reste parce que madame Cochesse-Berger n'entend pas bien. Et souvent, je répète, je fais le lien et j'essaye de donner du liant.
Quand répéter ce que dit sa petite fille pour qu'elle comprenne bien.
Voilà. Et souvent, certaines personnes âgées sont, comment dire, ne comprennent pas qu'ils voient leurs proches dans cette tablette, ils ne comprennent pas le concept et ça les retient.
Là, ça y est, les visites ont repris depuis quelques jours, vraiment sans être réglementées et de 20 minutes seulement. Vous continuez malgré tout à mettre en place ce moyen de communication.
Pour les familles qui sont éloignées, nous allons continuer. Donc là, pour l'instant, j'ai deux familles qui me l'ont demandé. Par rapport à cette crise, je trouve que les liens avec les familles se sont encore renforcés. J'avais déjà un contact avec les familles à travers les animations, mais là, il y a quelque chose de plus fort qui s'est noué. Pendant le confinement, on a dû supprimer les activités, il y avait cet enfermement, il y avait ce stress aussi de la maladie, hein. On a perdu beaucoup de résidents. Alors après, ces moments-là, d'entretien Skype, c'était des moments riches qui me redonnaient de la force pour continuer le quotidien.
Marilyn Kleiber, animatrice au sein de l'EHPAD Les Cèdres à Colmar, elle s'est occupée de maintenir un lien social entre les résidents et leur famille pendant le confinement.
Oui, elle a organisé des appels vidéo sur rendez-vous, donc en offrant cette possibilité aux familles. En moyenne, pendant le confinement, elle devait gérer une quinzaine d'appels Skype par semaine. Donc c'est devenu une partie importante de son travail, faute de pouvoir organiser des animations dans les espaces communs. Elle s'aide de 3 tablettes tactiles, dont disposait déjà l'établissement, mais qui servaient jusque-là à proposer surtout des jeux en ligne aux résidents. Alors les appels vidéo, Marie-Bernadette sait en passer. C'est avec elle qu'on va finir notre bout de chemin et notre reportage au sein de cette maison de retraite à Colmar. Vous allez voir Marie-Bernadette, immobilisée par la sclérose en plaques et très connectée avec son enceinte high-tech qui s'éteint dès qu'elle lui en donne l'ordre.
J'ai du monde pour vous ?
Oui.
On vous a parlé de la journaliste qui venait ?
Oui.
Ah ben voilà.
Bonjour.
Elle est là.
Alexa, Tito.
Waouh, c'est impressionnant.
Super. Et vous pouvez...
Alors là, vous venez d'éteindre la musique en parlant à votre enceinte connectée.
Oui. Ça, c'est un cadeau d'un de mes enfants.
Alors, on voit là que vous avez un tableau devant vous avec écrit « Joyeux 70 ans, Bernadette ».
Il a déjà 6 ans.
C'est bien, ça nous permet de connaître votre âge.
Et les photos, les cartes postales, tout ce que vous voyez maintenant là, ce sont des personnes, mes enfants, des amis, et puis mes petits-enfants et tout. Ils m'ont envoyé ça pendant le confinement.
Il y a au moins une vingtaine de photos ou de lettres.
Et là-bas, encore celles qui sont sur l'étagère aussi.
Et alors, comment vous l'avez vécu, ce confinement ?
Très dur. C'était très dur et très long. Moi, déjà, je peux rien faire. Je peux pas bouger.
Vous êtes en fauteuil roulant ?
Oui, ben, ça fait maintenant 12 ans que je suis ici dans l'établissement. Parce que je peux plus marcher, plus bouger les mains, plus les bras.
Vous avez les bras qui sont paralysés ?
Ben, tout est paralysé. Du cou jusqu'aux orteils. La sclérose en plaques. Il n'y a que la tête qui marche encore, on va dire. Et s'il y a quelque chose, j'ai un engin spécifique pour appeler.
Avec la bouche, en fait, du coup.
Comme ça, il faut le prendre en bouche, il faut souffler dedans. C'est la nouvelle technique de sonnette. Du jour au lendemain, le mardi, on a encore fait la cavalcade. J'étais déguisée, on a fait la fiesta, on va dire. Et tout ça, et le lendemain, ils sont venus nous prévenir, voilà... Vous serez confinés dans votre chambre. Alors voilà, j'étais que là. Fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Tout était fini. On était là, 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 là. Ce qui m'a aidé, c'est justement mon courrier. Et puis la télé. J'ai mes programmes avec la musique aussi.
Vous avez reçu du courrier, mais vous n'avez pas pu voir votre famille.
Non, j'ai vu personne. Ben, c'est ça que c'était le plus dur. Parce que j'ai quand même 4 enfants, 5 petits-enfants. Et là, la photo que vous voyez, ce sont les enfants. Cette photo, elle a été faite dans mon village,
On voit vos enfants qui sont en train d'imiter les Beatles sur, comme
oui,
sur une photo
oui,
d'album.
Voilà, ils ont copié.
C'est Abbey Road.
Eux qui ont copié.
Donc ils sont sur un passage piéton, l'un derrière l'autre.
Et ils sont classés suivant l'âge.
Personne n'est revenu depuis le déconfinement ?
Jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est pas que je me suis sentie vraiment seule. Je sais que les miens, ils sont, je les ai, mais je ne les voyais pas. Mais j'avais peur de le choper. Aujourd'hui encore.
Le coronavirus ?
Oui. Et en plus, moi, je l'appelle le chikungunya.
C'est pas exactement ça.
Non, c'est pas ça, mais je lui ai donné ce nom. Le corona, machin, il me rentre pas. Comme vu les tous les problèmes que j'ai déjà eus.
Vous avez des amis ici avec qui vous déjeunez ?
Comme il y a les nouvelles conditions, c'est deux personnes à une table, à chaque bout. Donc, j'ai juste le contact avec la personne qui est avec moi à table. Mais comme elle parle aussi en alsacien, ben nous deux, c'est l'alsacien. Alors, on tchatche en alsacien. Là, on a aussi un peu de compagnie, on peut aussi discuter.
Marie-Bernadette, vous m'avez parlé de musique tout à l'heure.
Oui.
Vous voudriez chanter quelque chose ?
Oui. Là, une chanson que je connais bien. Bon, vous voulez que je la chante ? Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose. Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elle ait des cheveux blancs, mon cœur leur chante à toutes en même temps.
Toutes les femmes sont belles.
Toutes les femmes sont belles, chanson de Franck Michael, hommage à ces femmes résidentes, soignantes, toutes résistantes au sein des EHPAD en France, mais aussi bien sûr à tous les hommes qui ont travaillé et vécu la crise à leur côté.
Oui, les personnels des EHPAD ont été en première ligne pendant la crise sanitaire que nous venons de traverser. Pour certains, au vu du manque de moyens humains et matériels dans ces structures particulièrement, des insuffisances dénoncées de longue date, eh bien l'hécatombe à laquelle on a assisté au sein des EHPAD était dans une certaine mesure prévisible. Aujourd'hui, avec un ratio de 0,6 salariés par résident, le taux d'encadrement dans ces établissements pour personnes âgées est l'un des plus faibles d'Europe.
EHPAD et Covid-19, quelle tribu pour la vieillesse ? C'était un reportage de Charlie Dupiot à Colmar, dans la région du Grand Est en France. Merci beaucoup Charlie et à bientôt. Reportage au sein de l'EHPAD Les 7 du Centre départemental de repos et de soins, dont on remercie l'ensemble de l'équipe pour leur accueil, particulièrement Annick Zimmermann, dynamique animatrice qui prend sa retraite cet été. À la réalisation aujourd'hui, Didier Bleu. Lundi dans Priorité Santé, nous parlerons des troubles du sommeil. Vous retrouverez derrière le micro Igor Strauss. À lundi, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.